Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Mesdames et messieurs, nous allons continuer cette longue introduction à ce que je vous dirai de plus substantiel dans les semaines à venir. Et je vous disais que l'un des grands changements depuis 1947, c'était la multiplication des chercheurs en Inde. Il n'y a pas de modification appréciable en Europe. Il y aurait même ces derniers temps plutôt une diminution, puisqu'il y a une suppression quasi générale en Europe des chaires consacrées à la période ancienne de l'Inde, de sanskrit ou d'histoire de l'art, avec des suppressions, y compris dans un des pays qui fut le berceau de l'étude de l'Inde ancienne, c'est-à-dire l'Allemagne. Mais en Italie, la situation n'est pas meilleure. En Russie, elle est pire. Et en Grande-Bretagne, ça fait longtemps que les choses sont réglées de ce point de vue-là. Que cette multiplication des chercheurs avait quand même des désavantages parce que les chercheurs sont forcés de publier pour être connus comme chercheurs. Cela multiplie les informations, d'autant que le coût de l'impression ces dernières années a beaucoup baissé et qu'il est même quasi gratuit pour les publications qui se font par Internet. Et donc, il y a un déluge d'informations et absolument aucun tri comme tout ce qui se publie sur Internet. Jadis, quand quelqu'un, quand un amateur, disons, voulait écrire quelque chose, pour que ça soit diffusé, il fallait qu'il ait de l'argent pour publier ce quelque chose. Et il y a eu, dans l'histoire de l'orientalisme, et c'est en train de revenir, beaucoup d'amateurs tout à fait remarquables, et qui en plus étaient remarquables par le fait qu'ils avaient de l'argent et qu'ils pouvaient vivre de leur rente ou de leur activité boursière. C'était le cas, par exemple, d'un des grands savants du XIXe siècle, Émile Senard, qui était un propriétaire de grosses usines à sucre, et qui a été quand même un des très très grands savants du XIXe siècle et qui finançait lui-même ses publications très coûteuses. Jusqu'en 1940, presque toutes les premières publications d'historiens étaient financées à frais d'auteur. Nous avons eu une période un peu plus faste jusque dans les années 90-95, mais il est évident que dans beaucoup de pays, maintenant, les publications sont extrêmement difficiles à financer, bien que le coût en ait baissé. Par contre, n'importe qui peut afficher sur Internet n'importe quoi. Et c'est là que se pose le problème du tri, de la fiabilité de l'information, et de la vérification possible de ce que les gens écrivent. Donc, il y a, comme disent les professionnels d'Internet, il y a beaucoup de bruit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes qui sont difficilement accessibles. Alors, ces textes ne proviennent pas essentiellement d'amateurs. Ils proviennent également de professionnels, puisque la carrière des professeurs et des chercheurs, que ce soit dans tous les pays du monde, se fait par la publication. Vous connaissez le proverbe américain « publish or perish » qui s'accroît maintenant par la multiplication des outils de bibliométrie et l'efficacité et le renom des savants se mesurent désormais par le fait que vous ouvrez votre ordinateur, vous cliquez sur Google Scholars et vous avez une vue anglo-saxonne de ce qui se publie par auteur et également du nombre de fois où leurs articles ont été lus ou cités. Alors, cela pose des problèmes. D'abord parce que si vous regardez un peu dans Google Scholars le nom de gens que vous connaissez, vous verrez qu'un certain nombre de leurs productions n'est pas répertorié par les moteurs de recherche, qui ne répertorient pas tout. Qu'ensuite, il y a un très gros avantage pour les publications en anglais. Si vous écrivez en français, en russe ou en allemand, vous serez évidemment bien moins répertorié et surtout bien moins cité. Et ensuite, ça donne lieu à des dérives qu'on connaissait déjà par avant, mais qui là sont augmentées. C'est le fait que dans nos disciplines, en tout cas qui sont des disciplines où la notion de vérification objective et même de revue à comité de lecture n'existe pas. Les revues à comité de lecture que nous connaissons, le comité de lecture en général ne fait pas un tri extrêmement fort. Mais vous avez donc des moyens de publication et l'une des techniques pour être beaucoup citées, ce qui compte en particulier pour les jeunes chercheurs qui cherchent un poste et et dont le recrutement dépend en partie de ces outils bibliométriques et dépend de plus en plus de ces outils bibliométriques. La technnique consiste à se faire citer par des amis et l'autre technique consiste à écrire un article à scandale qui sera immédiatement contredit, mais étant contredit, aura été beaucoup cité. Alors il y a eu quelques articles ou livres à scandale ces dernières années. C'est une technique très fréquente, qui est même employée par des gens de sciences plus nobles que l'histoire, des biologistes qui annoncent des découvertes qu'ils n'ont pas encore faites, ou des gens qui écrivent sur la présence d'eau sur la Lune, le nombre d'articles qu'il y a pu y avoir sur la présence d'eau sur la Lune ou sur Mars, et ça nourrit une controverse qui trouve son écho dans les moteurs de recherche. Donc, on en est réduit aux moyens de tri habituels, c'est-à-dire lire soi-même, ce qui devient de plus en plus difficile, comme vous le verrez, et puis s'en remettre aux avis des amis, parce que dans les comptes rendus deviennent également de plus en plus gentils. Pour une raison très simple, c'est le développement de la démocratie. Si vous vous amusez, en particulier dans un pays, à dire d'un article ou d'un livre qu'il est mauvais, quand vous demanderez des crédits ou quand vous appuierez un candidat à une élection, si la personne dont le livre est mauvais et dont vous l'avez dit se trouve dans la commission, eh bien vous avez peu de chances d'avoir les crédits, vous avez peu de chances que l'appui donné à un candidat soit très effectif. Donc la prudence veut qu'on soit très gentil. Et en général, ce que l'on retire des comptes rendus, ce sont des tables de matière un peu plus détaillées que ce qu'il y a dans la table des matières originale. Ça n'était pas comme ça il y a une quarantaine d'années. Si vous regardez les revues scientifiques comme le Journal asiatique ou les grandes revues étrangères des années 30-40, les controverses et les comptes rendus étaient d'une violence extrême. Par exemple, jusque dans les années 60, il y avait des articles de Dumézil contre les Allemands d'une violence extrême et inversement des articles des Allemands contre Dumézil d'une violence tout aussi extrême. Alors, ce n'est peut-être pas l'idéal, la violence, mais au moins les gens savaient à quoi ils s'attendaient. En dehors même de la production, je veux dire du fait qu'il y a des articles qui existent, des livres qui existent, il y a l'apparition de beaucoup de revues inutiles. Le nombre de chercheurs en Europe, en tout cas, n'a pas réellement augmenté. Et donc la production de qualité n'a pas réellement augmenté. Et on aurait très bien pu se satisfaire des revues qui existaient dans les années 60-70. Si vous regardez le catalogue des revues qui existent et dans lesquelles on publie, vous verrez qu'il s'est multiplié par 4 ou 5, et c'est encore plus vrai dans le tiers-monde, pour une raison très simple, c'est que l'on considère désormais, chez certains savants, mais surtout chez ceux qui les financent, que la possession ou la création d'une revue et maintenant d'une lettre d'information, d'une newsletter, est absolument indispensable au prestige de l'institution qui finance les travaux de recherche, qui finance la revue ou qui finance cette lettre d'information. Et donc, chaque université, et parfois dans une université, chaque département, tient à se doter d'une revue dans laquelle, évidemment, il n'y a pas chaque année un excellent article. Et quand par hasard il y a un excellent article, comme c'est une revue qui est peu diffusée, il met quelques années à se faire connaître. On peut considérer maintenant que quasiment tous les départements d'histoire ancienne ou toutes les universités où il y a un département d'histoire ancienne ont leur propre revue. Et évidemment, les responsables de la recherche dans ces universités demandent que les chercheurs publient dans cette revue. Alors au mieux, ça donne lieu à des articles qui se dédoublent, c'est-à-dire qui se répètent et dans cette revue où personne ne les lira et dans une revue qui a quand même une plus grande diffusion. Au pire, ça donne lieu à des articles écrits spécialement pour meubler la revue et dont il n'y a rien à faire, mais qui apparaissent un jour dans la bibliographie et on passe un temps fou, sinon de l'argent, à essayer de trouver la revue où est publié cet article pour le lire et s'apercevoir que c'est la répétition d'un article précédent ou que c'est un article dont il n'y a rien à dire. Ça, c'est une des grosses difficultés. Alors, l'avantage, c'est que comme il y a tellement de revues et qu'on ne peut pas les acquérir toutes, on peut toujours dire qu'on n'a pas vu tel article situé dans la bibliographie. Ça, une autre raison de cette multiplication des articles, c'est la multiplication des colloques et des recueils de mélange. Les recueils de mélange, maintenant, il suffit d'avoir 60 ans pour que vous ayez une dizaine de personnes qui vous écrivent votre recueil de mélange et qui, ne sachant pas quoi dire, sortent en général leur fond de tiroir. Alors parfois, il y a un très bon article dans ces mélanges, mais c'est relativement rare, d'autant plus que, comme ça coûte relativement cher, on limite d'autorité la longueur des articles à 5, 10, 15 pages. Qu'est-ce qui se passe quand on a 20 ou 25 pages, on devrait écrire 20 ou 25 pages, eh bien on est obligé de se limiter. Alors ça c'est très gênant, les mélanges, parce que c'est impossible à répertorier dans les bibliothèques. Les articles s'y perdent et vraiment c'est en général dans un recueil de mélanges, quand il y a un ou deux bons articles, on en est content. La procédure pour les mélanges, pour contrer les mélanges, elle est vraiment connue, c'est vraiment très simple. C'est qu'au lieu que les gens se fassent honneur à eux-mêmes en publiant dans un recueil de mélanges en l'honneur d'un grand maître, parce que les gens sont vexés si on leur demande pas de contribuer à un recueil de mélange. Et donc, c'est que les gens considèrent que c'est un honneur pour eux d'être appelés à participer à ce recueil de mélange. Au lieu de contribuer à ça, on ferait beaucoup mieux de rééditer des articles dispersés, comme font les Allemands dans la Glasenapp-Stiftung, avec une petite introduction, un classement thématique et surtout de bons index. Pour ça, c'est vraiment rendre hommage à l'œuvre d'un maître. Ça s'est fait en France pour Filiosa, ça s'est fait un tout petit peu pour André Barrault. Si on veut vraiment rendre hommage à quelqu'un, c'est en publiant ses articles à lui et non pas en publiant des mélanges avec, en gros, le nom de l'auteur qui a réuni les articles divers et en tout petit, les noms de celui à qui les mélanges sont offerts. Alors, il y a énormément de colloques aussi. C'est une chose qui s'est développée en même temps que les avions en réaction. Pour des raisons de prestige et pour des raisons de financement aussi, les colloques se sont multipliés. Tout département d'histoire ou d'archéologie veut organiser son colloque. Et une fois qu'on a organisé un colloque, on espère être réinvité à un colloque ailleurs. Alors, les colloques en soi ne sont pas du tout inutiles. Ça permet la diffusion d'un certain nombre de connaissances. De la façon dont ils sont organisés maintenant, on peut se dire que la plupart ou bien sont inutiles ou permettent à des amis de se revoir ou permettent... c'est tout. Quoi. Ou sont inutiles ou permettent à des amis de se revoir ou alors permettent, ce qui est un autre cas, quand il s'agit de colloques qui se tiennent dans des pays où on ne peut pas aller facilement, ça permet à un certain savant d'y aller et de voir pour la première fois les sites. Si vous voulez aller, par exemple, au Turkménistan, la seule manière de faire, c'est d'être invité à un colloque. Autrement, vous ne verrez jamais le site. Alors ça, effectivement, ce sont des colloques utiles, même s'ils sont publiés. Mais l'avantage d'un colloque, il faudrait revenir à l'étymologie et dire que c'est un endroit où les gens se parlent. Alors, il y a deux façons de faire. Ou bien on invite tous les gens de la spécialité, comme les grands colloques de South Asian Archaeology, et qui sont effectivement très utiles parce que ça permet à des Américains, à des Russes, à des Français de se rencontrer, malheureusement pas beaucoup aux Indiens pour une raison que je vous dirai tout à l'heure. Et ça a une vertu pédagogique. Mais il est bien évident que lorsque vous avez un colloque comme l'archéologie asiatique qui se déroule tous les deux ans, même si on y ajoute l'histoire de l'art, qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec ça, eh bien, on n'a pas grand-chose à dire tous les deux ans. Encore, les archéologues peuvent dire qu'ils ont ouvert 4 carrés de plus et qu'ils ont trouvé des poteries qu'ils n'avaient pas trouvées avant. Mais les historiens de l'art, pour trouver du nouveau tous les deux ans, ça n'est pas facile. Et la solution serait que ces colloques, on donne la parole aux gens qui ont quelque chose à dire parce qu'ils ont découvert du nouveau, et que les autres se taisent et écoutent, ce qui est tout à fait normal, et posent des questions, se renseignent et prennent des notes. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, pour une première raison, c'est que le financement des voyages dans les colloques et des frais de séjour est donné par les universités ou par le CNRS, uniquement si l'on donne une contribution écrite. Une intervention qui donnera lieu à une contribution écrite, qui elle-même va venir alourdir la bibliographie. Donc, si vous voulez assister à un colloque en Inde, payé par le gouvernement français, eh bien, il faut annoncer que vous allez donner une intervention. Deuxièmement, il est clair que pour des raisons de carrière, en particulier pour les jeunes chercheurs, si on veut se faire connaître, il faut absolument parler. Et la meilleure façon de parler, c'est quand même de donner une intervention. Un certain nombre de colloques, en particulier les colloques annuels que font les grandes sociétés américaines, sont en réalité, à part le fait que se rencontrent des spécialistes qui ont du mal à se rencontrer parce que les États-Unis, c'est grand, mais ce sont surtout des foires au recrutement où les jeunes savants viennent se présenter en espérant que ils trouveront un poste dans une université ou un poste un peu plus stable que ceux qu'ils ont maintenant. Donc, ces colloques multiplient les informations. La plupart des gens c'est très fréquent que l'on participe à 4 ou 5, parfois 6 colloques dans l'année, ce qui non seulement nourrit la bibliographie, comme je vous le disais, mais ce qui prend un temps fou. Parce que si on veut faire les choses bien, il faut quand même préparer son intervention. En fait, il faut en préparer 2, sinon 3. Il faut préparer l'intervention qu'on va donner à un colloque, qui est très minutée, en général 15 à 20 minutes. Il faut préparer l'article qui sera tiré de l'intervention et qui est en général plus long, parce qu'en 15 minutes, je ne vois pas ce qu'on peut dire. Et maintenant, il faut préparer les présentations en PowerPoint sur ordinateur. Ça prend beaucoup de temps, il y a le déplacement. Et le résultat, c'est qu'il est, même si on se répète beaucoup, il est très difficile d'écrire un livre ou d'écrire un long article de fond, parce qu'on n'a littéralement pas le temps. Si vous regardez la bibliographie des grands ancêtres, enfin par rapport à moi, des gens comme Renoux, des gens comme Filiosa, vous verrez qu'il n'y a quasiment, pour la biographie de Renoux, qui est une biographie énorme, ou celle de Filiosa, qui est aussi très grande, il n'y a pas plus d'une dizaine d'interventions dans des colloques, dans toute leur carrière. Maintenant, n'importe quel chercheur au CNRS et n'importe quel étudiant doctoral ou postdoctoral a un minimum d'un colloque par an, souvent 3 ou 4. Et c'est accentué par les formulaires que l'on est obligé de remplir chaque année pour les carrières, où il est marqué publication marquante, participation à des colloques comme invité, participation à des colloques non invité, écriture de tel ou tel article dans une revue avec ou sans comité de lecture. Et évidemment, les gens se sentent obligés de remplir toutes les rubriques et donc d'avoir tout fait, y compris de la vulgarisation. Mais ce qu'il y a de pire, c'est qu'ils sont recrutés ou qu'ils sont promus également en fonction de ces notices. Et donc, on comprend très bien qu'ils fassent ça. C'est une énorme perte de temps à la fois pour les gens qui y participent et puis pour les gens qui lisent ça ensuite. On a un exemple très, très clair qu'un certain nombre de vous connaissent. C'est l'une des meilleures associations qui existent dans nos domaines, qui sont les congrès biannuels de l'Association européenne des archéologues de l'Asie du Sud, qui s'appelle South Asian Archaeology, et qui en fait réunit la plupart des archéologues du monde, puisque il y a beaucoup d'étrangers qui, non européens qui y participent, des Américains presque toujours, quelques Russes quand l'association trouve les moyens de leur faire venir, quelques Indiens. ça réunit véritablement l'ensemble de la profession, à l'exception des Indiens, parce que les Indiens, leur voyage est en général payé par le gouvernement, et le gouvernement indien ne paie les voyages qu'aux gens très vieux qui sont à la tête de la hiérarchie, le principe de séniorité, comme on dit en adoptant un mot anglais, joue à plein. Il est quasiment impossible pour un jeune chercheur indien d'être envoyé par son gouvernement dans un grand colloque international. Il n'y a que le chef qui peut faire ça, et qui, évidemment, étant le chef, est débordé de travail administratif et rédige son article sur un coin de table 48 heures avant de venir, s'il ne demande pas à quelqu'un de le faire. Or, ces colloques auraient été très, très utiles justement pour former les jeunes chercheurs indiens. De même que c'est très utile pour les jeunes chercheurs français ou anglais, je puis vous assurer que lorsque j'étais professeur à Strasbourg, il était absolument impossible d'obtenir des crédits de colloque pour un étudiant doctorant ou même pour un jeune qui s'appelait à l'époque maître assistant et qui s'appelle maintenant maître de conférence. Les crédits de colloque, les crédits de déplacement internationaux étaient réservés aux professeurs. C'est une chose, ce n'est pas la faute des organisateurs des colloques, c'est la faute de la façon dont fonctionne la société. Et ceci dit, South Asian Archaeology a été une très très grande réussite. Les actes de South Asian Archaeology ont été la base, et sont toujours la base de l'information. Mais maintenant, l'association est devenue si grande, enfin les congrès sont devenus si grands, il y en a eu un ici il y a quelques années, il y avait je ne sais plus combien, 350 ou 400 personnes. La plupart des gens veulent publier et le résultat est double. D'abord, c'est que les actes mettent très longtemps à être imprimés, 4 ou 5 ans souvent. Donc pour les publications de fouilles, ils sont un peu en retard. Mais surtout, c'est que les volumes sont tellement gros et tellement chers qu'on ne les achète plus parce qu'on ne va pas acheter un volume où il n'y a que deux ou trois articles qui intéressent le chercheur. Donc seules les bibliothèques les achètent et encore beaucoup reculent devant le... Et encore, ça, c'est la chose qui fonctionne le mieux. Mais des colloques, il y en a des centaines. Et en Inde, encore plus. L'autre problème, l'autre désavantage de ce qui s'est passé depuis 1947, c'est la séparation et l'état de guerre larvé entre le Pakistan et la République indienne. C'est un peu la même chose pour le Bangladesh, je suppose, mais là, c'est un endroit que je connais moins bien. Mais il est tout à fait clair que depuis 1947, sauf à de courtes périodes, les archéologues et les historiens pakistanais et les archéologues et historiens indiens n'ont eu strictement aucun contact. Sauf lorsque, par hasard, ils se rencontraient dans un colloque à l'étranger, ce qui est un autre avantage des colloques, c'est de permettre à des savants qui appartiennent à des pays ennemis de se rencontrer en terrain neutre. Et jusqu'il y a quelques années, les Pakistanais et les Indiens étaient très contents de se rencontrer dans ces colloques, moins peut-être pour échanger des informations que parce qu'ils appartenaient à la même génération et que très souvent, ils avaient été ensemble jeunes fonctionnaires dans l'Archaeological Survey of India, avant 1947, et que c'était la partition qui les avait séparés. Donc, ils retrouvaient des vieux copains, ils échangeaient des informations. Mais la jeune génération, ces liens d'amitié sont terminés. Et donc, les Pakistanais ne savent plus rien de ce qui se passe en Inde, et les Indiens ne savent plus grand-chose, plus du tout, de ce qui se passe au Pakistan, sauf, encore une fois, par ces colloques ou par des intermédiaires étrangers. Alors, pour les Pakistanais, je dois dire, ça leur est un peu égal, sauf pour les spécialistes de la civilisation de l'Indus, mais les autres se concentrent sur l'histoire de leur pays, considèrent qu'ils sont complètement séparés de ce qui est le territoire de la République indienne, que de toute façon, ce qui est le plus intéressant pour eux, c'est la période islamique, que tout le reste, c'est un passé qu'ils veulent oublier. Mais pour les Indiens, c'est une catastrophe, parce que pour les Indiens, ce qui est aujourd'hui le Pakistan, c'est exactement la même chose que le territoire de la République indienne actuelle, jusqu'à l'arrivée des musulmans et même après. Et nos collègues indiens sont très demandeurs d'informations sur ce qui se passe au Pakistan, des informations qu'ils n'ont pas, d'abord parce que les Pakistanais, il faut bien le dire, publient peu, dans des revues difficilement accessibles, même leurs grandes revues, et qu'en plus, les nombreuses missions étrangères qui fouillent au Pakistan, par exemple la mission française de Mergar, publient très rarement en anglais. Bon, les Italiens publient en anglais, les Allemands publient en anglais, mais les Français qui ont fait des découvertes très importantes les publient en français. Et il y a là un déficit d'information pour les Indiens qui est extrêmement important et qu'ils essaient de... qu'ils essaient de compenser, mais qu'ils n'arrivent pas à compenser parce que les publications ne passent pas la frontière. Vous savez, les publications indiennes ne sont pas très faciles à obtenir en France, par exemple, mais il y a de bons libraires indiens et on arrive à commander la plupart des publications, pas toutes, si on veut publier, avoir une communication qui est faite qui est dans un bouquin publié à Sagar ou à Nagpur, c'est pas si simple. Mais enfin, en tout cas, les grandes revues, on les obtient facilement. Mais on n'obtient pas en France, sauf à aller sur place, les publications qui sont faites au Pakistan. La bibliothèque de l'Institut d'études indiennes essaie d'acheter... Bon, le musée Guimet a, par exemple, Pakistan Archaeology, je pense... par la présence de la mission Jarige au Pakistan. La bibliothèque d'études indiennes n'en a pas la collection complète parce que tout simplement, on a des volumes quand on a un ami pakistanais ou un collègue pakistanais qui veut bien nous les apporter. Et moi-même, j'ai passé 3 jours à Islamabad à essayer d'acheter ces publications au service archéologique pakistanais, pas dans un libraire, sans y arriver. C'est vraiment très, très, très difficile. Alors, évidemment, ça donne sa place, c'est une des choses sur lesquelles j'assisterai pendant ce cours, ça place les étrangers, c'est-à-dire essentiellement les Américains et les Européens et les Japonais d'un côté, ça place ces étrangers en situation très dissymétrique par rapport à leurs collègues indiens. Parce que les étrangers, en général, ou en tout cas ceux qui habitent dans une grande ville, ont accès à la fois à l'information venant du Pakistan et à l'information venant de l'Inde, et sont donc extrêmement favorisés par leurs collègues indiens, par rapport à leurs collègues indiens. Et ça crée une disparité qui amène très souvent les chercheurs européens à assumer, une attitude de supériorité qui n'est pas toujours justifiée, parce que s'ils ont accès aux publications, ils ont certainement un moins bon accès que les collègues indiens au terrain. Et surtout, ils connaissent moins bien la société que nos collègues indiens. Il est bien évident que le séjour sur place et le voyage, même lorsqu'ils sont prolongés, ne vous mettent pas sur un pied d'égalité avec des gens qui sont nés sur place et qui y vivent constamment. Et l'histoire s'occupant aussi de problèmes de société, et en plus étant résonnant beaucoup par analogie entre ce qu'on connaît dans le monde contemporain et ce qu'on imagine dans le monde passé, il est bien évident que, de ce point de vue-là, nos collègues indiens connaissent beaucoup mieux leur société que nous ne les connaissons. Donc les sentiments de supériorité ne sont pas toujours justifiés. Mais il est vrai que du point de vue de l'information, du point de vue évidemment des facilités d'accès aux bibliothèques et même du point de vue des facilités d'impression, les Européens et les Américains sont extrêmement avantagés quand ils ont un poste, ce qui est de plus en plus rare. Ceci dit, je suis en train de vous parler de l'histoire et de l'histoire ancienne. Il faut savoir qu'il y a quand même une véritable dichotomie, parce que l'histoire ancienne dépend beaucoup de la connaissance des langues anciennes, de la connaissance des documents anciens qui, pour l'Inde, sont essentiellement des inscriptions et des monnaies, et également de l'archéologie. Les fouilles apportent beaucoup, surtout pour les périodes antérieures à l'invention de l'écriture, c'est-à-dire pour toutes les périodes qui sont en gros antérieures au 5e siècle avant notre ère. Malgré tout, le métier d'historien et celui d'archéologue et celui d'épigraphiste ne sont pas pareils. Ça, il faut bien le savoir. Il y a des historiens, il y a des archéologues. Ce n'est pas la même chose. Les purs historiens sont des gens qui essaient de reconstituer une période, qui essaient de le faire à partir de documents qu'en général ils n'ont pas découverts eux-mêmes, dont ils n'ont même pas fait la première publication, mais qui essaient de les replacer dans un contexte géographique et historique, d'en faire un récit continu, parce que l'histoire, avant d'être une science, c'est surtout un discours. Vous pouvez être un très bon historien, mais si vous écrivez très mal votre langue, personne ne vous lira. L'histoire se doit d'être écrite aussi bien qu'un roman. Et puis en plus, l'historien, logiquement, a une formation spécifique qui n'est pas simplement de savoir lire des archives, mais qui est d'avoir lu beaucoup en dehors de son domaine et de voir comment les grands historiens du passé ont conçu leur métier, quels sont leurs concepts, quels sont leurs tours de main. Il est bien évident qu'un historien qui... français de l'Inde ancienne qui n'a pas lu un peu de Braudel, qui n'a pas lu un peu de Bourdieu pour la sociologie, qui ne sait pas qui est Fustel de Coulanges, qui ne sait pas qui sont les grands historiens de Rome, évidemment n'a pas à sa disposition les mêmes concepts qu'un historien qui a une culture beaucoup plus large. Or, cette culture, il y a quelques historiens indiens qui l'ont ou qui l'avaient. Parmi les deux historiens indiens de l'Inde ancienne qui ont cette culture, tout le monde connaît Romila Thapar, qui a parlé ici plusieurs fois. Sur une période plus ancienne, vous avez Sherin Ratnagar, qui a également parlé ici. Sur une période un peu plus tardive, vous avez Bidhi Chattopadhyay, et vous avez un certain nombre d'historiens de ce genre. Ils sont très très peu nombreux, et les trois que je vous ai cités sont des gens qui ont maintenant probablement plus de 70 ans. Et la raison en est en partie, d'abord c'est que le métier impose des publish and perish, or perish, mais l'une des raisons c'est que les Indiens ne lisent que l'anglais. Il est très rare d'avoir des Indiens qui soient capables de déchiffrer d'autres langues que l'anglais. Or, en plus, ils n'ont aucun accès aux bibliothèques, même les grands historiens indiens que je viens de citer n'ont pas de grandes bibliothèques à leur disposition. Madame Tappart, par exemple, doit passer 3 mois tous les étés à travailler à Oxford ou à Washington, parce que tout simplement les bibliothèques indiennes n'ont en gros que des livres indiens, et encore ils sont souvent gardés sous clé, et le bibliothécaire est en général absent. Donc c'est pas facile d'avoir des livres. Et comme les salaires indiens ne sont pas énormes, on ne peut pas non plus se constituer une bibliothèque. Donc c'est un grand désavantage, mais c'est un grand désavantage pour l'Inde ancienne, parce que depuis une quarantaine d'années, comme vous verrez, la majeure partie des découvertes marquantes, elle vient du Pakistan, elle vient d'Afghanistan, elle vient d'Ouzbékistan, et elle est souvent publiée en des langues que les historiens indiens ne connaissent pas, c'est-à-dire le français, le russe et l'allemand. Alors évidemment, ça leur donne un grand handicap, qui n'est pas du tout un handicap d'intelligence, mais qui est tout simplement un handicap de connaissance de langue. Il faut bien vous rendre compte que dans une science internationale, comme sont maintenant toutes les sciences, mais dans une science internationale qui, dans ce cas particulier, n'est pas passée entièrement à l'anglais, ce qui n'est pas le cas de la biologie ou de la physique, vous êtes obligé de connaître, outre les langues anciennes, vous êtes obligé de connaître au minimum une langue contemporaine autre que l'anglais. Et selon le domaine, c'est l'anglais, l'allemand ou le russe. Et il vaut mieux les connaître toutes les trois. Or, ça demande certaines capacités, et c'est tout à fait contraire au système de recrutement, parce que si vous voulez apprendre les langues, eh bien, ça prend du temps. Et donc, pendant ce temps-là, vous ne faites pas votre doctorat. Or, vous avez en France 5 ans pour le faire, et de toute manière, au-delà d'un certain âge, on ne vous recrute plus dans les universités. Donc on lance dans la recherche des jeunes gens qui, ce n'est pas de leur faute, doivent faire des choix sur les langues qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. Mais il est bien évident que lorsque vous regardez une bibliographie d'un certain nombre de sujets, vous avez des articles extrêmement importants, non traduits, qui se trouvent dans des langues autres que l'anglais. Alors, les Indiens, de temps en temps, font des efforts pour traduire dans leurs revues des articles écrits en français ou en allemand et de les traduire en anglais. De même, il y a ou alors ils demandent aux auteurs dont ils savent qu'ils ont écrit quelque chose d'intéressant de leur donner une version anglaise de l'article. Et puis, il y a aussi des recueils d'articles qui sont constitués, disons, par les ambassades pour faire valoir leur science. Par exemple, les Allemands font ça de temps en temps, des recueils d'articles parus en allemand et traduits en anglais sur l'Inde ancienne. Les Français aussi, mais moins systématiquement. À côté de ces purs historiens, vous avez ce que j'appellerais des découvreurs, c'est-à-dire des gens qui ou bien trouvent eux-mêmes des documents dans des fouilles, ou bien des experts de choses rares à qui on apporte des documents inédits et qui les publient. C'est le cas des épigraphistes. Là, il y a une obligation de publication, mais ce sont des publications princeps, qui sont en général de qualité, dans du domaine dont les gens sont spécialistes. Les publications d'archéologie faites par des archéologues sont en général de qualité, La seule chose qu'on peut reprocher, et qu'on a beaucoup reproché en particulier à l'Archaeological Survey of India, mais qu'on pourrait reprocher à peu près à tous les pays, c'est que les archéologues se satisfont facilement d'articles préliminaires qui sont nécessaires pour faire connaître rapidement les découvertes, mais qu'ensuite les publications complètes n'arrivent pas ou n'arrivent pas du tout. Or, ce sont les publications complètes qui comptent. Et quand ces publications complètes n'arrivent pas, on peut se dire qu'une partie de la fouille est complètement inutile puisque les documents qui en sont sortis restent inconnus. Et on ne peut pas compter sur les publications posthumes, car j'ai une grande expérience des publications posthumes. D'une part, je sais comment je les ai faites, et d'autre part, je sais combien j'étais incapable de comprendre un certain nombre des documents que j'avais, que le fouilleur, lui, comprenait parfaitement, et comme il comprenait les choses parfaitement, il n'avait pas jugé utile de les écrire. Mais il avait des informations dans sa tête que je n'avais pas. Donc, une fouille qui n'est pas publiée du vivant de son auteur, j'ai l'habitude de dire que c'est comme s'il ne l'avait pas fouillée, même s'il y a des articles préliminaires. Les articles préliminaires, comme leur nom l'indique, sont faits pour être contredits par des découvertes subséquentes. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait fréquent, puisque les articles préliminaires vous donnent l'état de la fouille à un moment donné et les hypothèses de travail que l'archéologue fera par la suite sur cette fouille. S'il a de l'argent pour essayer de vérifier ses hypothèses de travail, elles sont vérifiées ou elles ne le sont pas, mais il aura fait son travail. Seulement, à un moment donné, il faut qu'il tire des conclusions, puisqu'à un moment donné, il s'arrêtera de fouiller. Ou les crédits lui permettant de fouiller s'arrêteront, ou les conditions politiques lui permettant de fouiller s'arrêteront. Il faut donc, à un moment donné, publier les résultats de la fouille. C'est extrêmement ennuyeux, c'est extrêmement long, et c'est surtout extrêmement cher. Alors évidemment, la solution, maintenant, c'est de publier sur Internet. Ça pose de gros problèmes parce que la durée de vie d'Internet n'est pas illimitée. Nous en avons quand même l'expérience depuis une quinzaine d'années. Le nombre de sites qui ont disparu est tout à fait impressionnant. Par ailleurs, l'Internet suppose une mise à jour continuelle des logiciels et il n'est pas sûr que les institutions qui ont accepté la publication de tel ou tel monument continuent à financer la maintenance du serveur. Et en plus, les différences entre logiciels, pour l'instant, ça changera peut-être dans quelques années, tout change si vite, sont telles que lorsque vous envoyez quelque chose sur Internet, beaucoup de gens ne peuvent pas le lire. Moi, je reçois des messages codés que je ne comprends pas. Pour revenir aux articles préliminaires, il se trouve que j'ai publié de façon posthume la fouille de Surcotal qui avait été faite par Daniel Schlumberger. J'avais à ma disposition les journaux de fouille. Je connaissais bien le site puisque j'y avais fouillé. Et il y avait cinq publications préliminaires de Daniel Schlumberger, quatre dans le journal asiatique, une dans une revue de la British Academy. Aucune ne disait la même chose exactement. Et surtout, les trois premiers rapports préliminaires étaient complètement faux, puisqu'ils décrivaient un monument situé au sommet d'une colline auquel on accédait par l'arrière et que la suite de la fouille a montré en fait, on y accédait par l'avant, par une colline de 75 mètres de haut, entièrement remodelée avec un escalier de 75 mètres de large. Donc si on s'était arrêté aux articles préliminaires, vous voyez ce que ça donne. Donc c'est ça, mais ça ne signifie pas que Schlumberger n'était pas un grand archéologue, c'était un très très grand archéologue. Les articles préliminaires, comme leur nom indique, ce sont des rapports préliminaires. Les autres, les épigraphistes, c'est autre chose. On leur apporte le matériel et ils essaient de le déchiffrer. Alors, il y a deux types de matériel. Là, vous avez un matériel, disons, de la République indienne. La République indienne a bénéficié de l'effort fait par les Britanniques à la fin du XIXe siècle pour publier les documents relatifs à l'histoire indienne ancienne. Et les Britanniques ont constitué, à côté de l'Archaeological Survey of India, un Epigraphical Survey, dont le siège s'est promené dans plusieurs états de l'Inde, qui est maintenant à Outhrakhand, dans le sud de l'Inde, qui était chargé de centraliser toutes les inscriptions et de les publier. Alors, l'effort de centralisation continue actuellement. L'effort de publication, on peut dire qu'il est quasiment stoppé depuis une vingtaine d'années. Il y a simplement quelques notices dans, en général, Indian Archaeology. Les inscriptions complètes sont rarement publiées. En plus, elles sont publiées de la façon dont les Britanniques avaient décidé qu'elles devraient être publiées, avec un système de transcription qui est complètement périmé, très peu de photos, et des estampages de qualité tout à fait discutable. Même les grands épigraphistes indiens, comme par exemple D.C. Sirkar ou Bhandarkar, qui ont été deux grands épigraphistes que personne aujourd'hui n'égale, ont travaillé à partir d'estampages et d'indications que leur envoyait au mieux le représentant de l'Archaeological Survey of India dans le voisinage, ou pire, un commissaire de police ou un commissionneur ou choses comme ça. Il n'avait que des estampages, ce qui fait que toutes les indications sur la localisation exacte des inscriptions, sur le monument ou le paysage dans lequel ils se trouvaient, ils les ignoraient. Et que dans certains cas, ils ont même cru avoir affaire à deux inscriptions quand en fait il y en avait une seule. Alors ceci a été démontré, on le savait, mais ceci a été démontré de façon tout à fait brillante par mon collègue allemand Harry Falk, qui en republiant il y a deux ou trois ans un livre sur les inscriptions d'Ashoka, a montré tout ce qu'on perdait comme information en ne travaillant que sur des estampages imparfaits. Car effectivement, quand on va sur le terrain, d'une part, on sait où sont les inscriptions. Vous verrez que, j'en parlerai la semaine prochaine, que leur localisation précise est extrêmement importante, mais on voit également le paysage, on comprend pourquoi elles sont placées là ou ailleurs, et souvent, on rectifie des informations fausses. Ce n'était pas la faute des Indiens, hein. C'est tout simplement que, d'une part, les voyages étaient extrêmement difficiles, puisque en dehors des gares, il fallait très souvent voyager en char à bœuf. C'est aussi le fait que, jusqu'il y a simplement 15 ans, les appareils photo étaient extrêmement chers, et le développement des photographies encore plus cher, leur impression encore plus chère. Ça a énormément changé avec le numérique, mais quand une bonne photo sur Hasselblad en pellicule 6-6 couleurs, ça revenait extrêmement cher. Et les départements indiens d'archéologie étaient absolument incapables de subvenir à ces dépenses. Le problème, c'est que les choses ont changé maintenant et que les habitudes continuent, d'une part parce que ce sont des habitudes et d'autre part parce qu'il n'y a pas de volonté nationale de publier le passé de l'Inde. En fait, les archéologues indiens, les épigraphistes indiens sont maintenant essentiellement des fonctionnaires qui répondent aux demandes du gouvernement, et en particulier le directeur de l'Archaeological Survey of India est constamment appelé à répondre aux demandes du Parlement. Donc ce n'est pas de leur faute, mais ça pose un problème. Alors les Occidentaux, en général, n'ont pas accès aux inscriptions trouvées en Inde, qui arrivent à l'Archaeological Survey of India, qui parfois les passent, parfois ne les passent pas, mais ils ont accès à l'énorme quantité de matériel qui, par période, arrive sur le marché aux antiquités, c'est-à-dire à Londres et au Japon. Il y a eu, dans les 30 dernières années, beaucoup d'inscriptions, essentiellement des inscriptions Kharoshthi, qui ont été publiées par des savants allemands, américains et français. Alors là, ils ont le problème de toute inscription qui est trouvée sur le marché aux antiquités, qui est le même problème que pour les sculptures. D'une part, la provenance est toujours difficile à deviner. Et lorsqu'on la devine, c'est de toute façon, en général, de manière approchée. Et puis ensuite, il y a un problème de fond. Et il est bien évident que les épigraphistes sont des gens passionnés. Quand ils voient une inscription, ils ont beaucoup de mal à admettre que c'est un faux. D'autant plus que s'ils disent à l'antiquaire que l'inscription qu'il leur propose est un faux, l'antiquaire, la prochaine fois, ne leur apportera pas l'inscription vraie. Il ira voir un autre collègue. Donc, il y a dans les publications d'inscription beaucoup de... enfin, quelques faux. C'est aussi très difficile de dire à un collègue qu'il publie un faux. Parce que c'est aussi très difficile de prouver qu'une inscription est fausse. Sauf quand c'est vraiment évident, à ce moment-là, le collègue l'a quand même vu. Il se trouve que dans la publication d'inscription, vous avez deux choses. Vous avez d'une part la lecture de l'inscription et sa traduction, ce qui paraît être le minimum, mais vous avez aussi un commentaire historique. Et là, les épigraphistes, qui sont en général des linguistes au départ, sont beaucoup moins armés que les historiens pour commenter ces inscriptions. Or, c'est la base. C'est la base. C'est la base, et il est bien évident que publier une inscription sans le commentaire, malheureusement, on ne va pas très loin. Et il est clair qu'effectivement, il y a très peu d'historiens qui soient formés à l'épigraphie, ce qui fait qu'on voit d'excellentes publications d'inscriptions avec des commentaires qui font hausser les épaules. Et puis en plus, il y a les manies du métier. La manie du métier pour l'Inde ancienne, c'est de trouver des dates. Alors, chaque publication d'inscription remet en cause le système des aires indiennes, le calendrier, tout ce qu'on veut. Ce n'est pas une chose nouvelle. Konoff, qui a publié le corpus d'inscriptions Kharoshthi en 1929, avait changé 4 ou 5 fois d'avis sur l'ère de Kanishka. Et chaque fois avait dû changer les systèmes des aires indiennes connectées. C'est la même chose en ce moment également pour l'ère de Kanishka. L'un des autres problèmes, c'est que les épigraphistes, comme tout le monde, sont forcés de publier vite, parce que c'est ce qu'on leur demande. Et le résultat, c'est la multiplication des petits articles dans des revues extrêmement dispersées. Là, il n'y a rien à faire, ça a toujours été comme ça, mais il y avait jadis une habitude qui était celle de, à un moment donné, de réunir tout cela et de faire un corpus. Et ça, les conditions de travail actuelles sont absolument contradictoires avec le fait de réunir des inscriptions d'une époque donnée ou d'une région donnée, de les publier tout ensemble, parce que c'est un travail qui demande de l'expérience. Ça ne peut pas être demandé à un jeune homme qui, en plus, lui, doit publier des choses rapidement pour faire sa carrière. Et quand c'est demandé à quelqu'un de plus âgé, ce n'est pas un travail très drôle. Et vous verrez de ce que je vous dirai tout à l'heure sur les conditions de publication de certains recueils que ça paraît très tard, en général après la mort de la personne qui s'était chargée de faire le corpus. Donc on a une multiplication de petits articles et des synthèses qui sont relativement rares, ce qui ajoute à la difficulté du métier.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.